La situation de violence est-elle partie pour durer au Kenya? On commence à se poser la question. Au moins 3 personnes ont été tuées depuis hier soir dans le pays suite à l'annonce de la réélection du président Uhuru Kenyatta. L'opposition fait éclater sa colère. Elle affirme que la victoire lui a été volée. Nous ferons le point avec Bruno Meyerfeld, notre correspondant à Nairobi. Celui qui veut la paix prépare la guerre. C'est un proverbe qui doit se méditer en ce moment, notamment au Japon où l'on est en train de déployer à partir d'aujourd'hui un vaste système de défense antimissile. Il s'agit de se préparer aux tirs de missiles annoncés par la Corée du Nord, des tirs qui doivent survoler justement le territoire japonais. Nous entendrons les explications sur place de Frédéric Charles. Et puis la plateforme Airbnb crée un dispositif permettant d'héberger des demandeurs d'asile chez soi. C'est une idée qui est née dans la tête d'un Français qui s'appelle Florent Sibéras. Claire Flochel l'a rencontré pour nous. La nuit et la matinée ont donc été extrêmement agitées au Kenya avec de nombreuses violences. 3 personnes au moins, dont un enfant, ont été tuées depuis hier soir. Les partisans de l'opposant Odinga n'acceptent pas le résultat de la présidentielle qui a vu, selon les résultats officiels, la réélection du sortant Uhuru Kenyatta. Sur place, on se demande si les violences vont ou non prendre de l'ampleur. Écoutons notre correspondant à Nairobi, Bruno Meyerfeld.
Oui, la nuit n'a pas calmé les tensions dans les bidonvilles de Nairobi. Au contraire, j'étais il y a quelques minutes à Kibera, le plus grand de la capitale kényane, 200 000 habitants, et là-bas c'est encore très confus. Il y a du gaz lacrymogène, des tirs à balles réelles, des douilles au sol, des foules qui bougent très vite, des restes de barricades et de pneus incendiés. Dans le ciel, il y a des hélicoptères pour observer la foule, et dans la rue, des canons à eau pour disperser les manifestants. Les policiers sont très nerveux, ils expulsent ou agressent les journalistes prenant des photos ou des vidéos, et ce n'est pas toujours très facile de s'approcher. Alors, les forces de sécurité semblent reprendre peu à peu le contrôle du bidonville. Elles repoussent en ce moment les manifestants plus à l'intérieur du quartier. On ne sait pas encore s'il y a eu des victimes à Kibera ce matin. À l'entrée, en tout cas, les commerces du marché ont rouvert leurs portes. Et le reste de Nairobi est calme, comme le reste du pays d'ailleurs, à l'exception de Kisumu, la grande cité de l'opposition dans l'ouest. C'est un peu donc comme s'il y avait 2 villes, 2 Kenya, celui des bidonvilles en feu et tout le reste, inquiet, nerveux, mais qui semble déjà être passé à autre chose.
Et de son côté, l'opposant Raila Odinga est resté silencieux depuis l'annonce des résultats hier. On attend donc ses premières déclarations qui pourraient décider de l'avenir de la contestation. Xi Jinping continue pour le moment de porter le costume du médiateur, du pacificateur dans la crise qui agite les États-Unis et la Corée du Nord. Le président chinois a eu ce matin un entretien avec son homologue Donald Trump. Il a tenté d'apaiser les choses. Il faut éviter les mots et les actes qui pourraient exacerber les tensions déjà fortes qui existent dans la péninsule coréenne. Voici en substance ce qu'a dit Xi Jinping. Il essaye d'appeler à la retenue un Donald Trump qui a, on s'en souvient, promis à Kim Jong-un le feu et la colère si jamais les provocations nord-coréennes se poursuivaient. De son côté, toujours dans la même crise, le Japon déploie à partir d'aujourd'hui son système de défense antimissile Patriot. Il s'agit là aussi d'une réaction à l'annonce par la Corée du Nord de son projet de lancer des missiles au-dessus de l'archipel en direction de l'île américaine de Guam. Au Japon, les précisions de notre correspondant Frédéric Charles.
La Corée du Nord a clairement indiqué qu'elle n'a pas l'intention de détruire la base américaine de Guam, d'où partent les bombardiers B-1B survoler la péninsule coréenne. La Corée du Nord précise que les missiles qu'elle envisage de tirer s'abîmeraient à une quarantaine de kilomètres de Guam, cet avant-poste stratégique des États-Unis, proche des Philippines, du Japon et de la péninsule coréenne. Guam sert de prédéploiement stratégique à une brigade aéroportée ou une force de réaction rapide américaine dans le Pacifique de l'Ouest. La Corée du Nord signale pourtant son intention de déplacer les pas de tir de ses essais de missiles de la mer du Japon, où ils finissent leur course habituellement, vers l'île de Guam, mais en se gardant de l'atteindre, car alors, en guise de représailles, Donald Trump ferait subir à la Corée du Nord le feu et la colère comme le monde n'en a jamais vu jusqu'ici. Par précaution, le Japon a déployé son système antimissile Patriot dans l'ouest du Japon, la région d'Hiroshima, que devraient survoler les missiles nord-coréens. Mais les médias japonais doutent de la fiabilité du bouclier antimissile nippo-américain déployé au large de la péninsule coréenne.
Précision donc de notre correspondant à Tokyo, Frédéric Charles. Et notons enfin, pour refermer ce chapitre, qu'à Moscou, le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, s'est dit très inquiet des risques de conflits élevés entre États-Unis et Corée du Nord. Les Kurdes d'Irak vont-ils devoir repousser le référendum sur leur indépendance? C'est en tout cas ce que leur demandent les États-Unis. Ce référendum est prévu pour le 25 septembre prochain. Les Kurdes l'attendent depuis longtemps. Ils vont pouvoir répondre oui ou non à la question de l'indépendance du Kurdistan. Cette consultation suscite la colère à la fois du gouvernement irakien et du gouvernement turc. Et aujourd'hui, on apprend que Rex Tillerson, secrétaire d'État américain, a téléphoné à ce sujet au leader kurde Massoud Barzani. Il lui a demandé donc le report de ce vote. Les Américains estiment que cette consultation risque de détourner l'attention d'autres préoccupations plus urgentes, comme évidemment la lutte contre les djihadistes de l'État islamique. On ne connaît pas encore la réponse kurde à cette demande américaine. Des milliers de personnes représentant l'extrême droite américaine sont attendues aujourd'hui dans l'État de Virginie pour une manifestation à haut risque. Le rassemblement d'aujourd'hui pourrait être en réalité le plus important depuis des décennies. Des membres du Ku Klux Klan et des néo-nazis feront partie de ce cortège qui défilera à Charlottesville. Aux États-Unis, les précisions de notre correspondant Philippe Rondé.
C'est une ville historique qui abrite notamment la maison de Thomas Jefferson et l'université de Virginie. Charlottesville, qui a voté à 80% pour Hillary Clinton, est devenue malgré elle le centre de la contestation des milieux d'extrême droite. Droite radicale, droite identitaire, groupuscule néo-nazi, membres du Ku Klux Klan, tous doivent se retrouver autour de la statue du général Lee, une statue qui représente celui qui a commandé les états esclavagistes durant la guerre de sécession, une statue que la municipalité de Charlottesville veut retirer d'un jardin municipal. Le 8 juillet dernier, quelques dizaines de membres du Ku Klux Klan s'étaient déjà retrouvés autour de cette statue avec leurs robes surmontées d'une capuche pointue, mais ils avaient été chassés en quelque sorte par des militants antifascistes beaucoup plus nombreux qu'eux. Cette fois, l'extrême droite américaine appelle à un rassemblement unitaire et espère faire venir des milliers de personnes, mais les contre-manifestants seront encore présents et les autorités locales craignent des violences et des incidents entre les deux camps.
Et la police attend entre 2000 et 6000 manifestants et contre-manifestants donc à l'occasion de ce rassemblement. 12% de Français se disent prêts à accueillir un réfugié. C'est le résultat d'un sondage réalisé par Harris Interactive. Eh bien, ils peuvent le faire désormais via la plateforme Airbnb. Depuis le 20 juin, la société permet de mettre gratuitement à disposition son logement ou sa chambre, par exemple, pour héberger des réfugiés ou des demandeurs d'asile en France grâce à une plateforme qui s'appelle Open Homes. Plusieurs associations françaises d'aide aux réfugiés s'associent à cette démarche et c'est d'ailleurs un Français qui en est l'instigateur. Florent Sibéras est employé de Airbnb à Paris depuis 2 ans et il a accueilli un réfugié syrien chez lui. C'est ainsi que tout a commencé. Claire Flochel a rencontré les deux hommes.
C'est en septembre 2015 que Florent Sibéras a un déclic en découvrant, comme le monde entier, les photos d'Eylan, cet enfant syrien retrouvé mort sur une plage turque.
Je me suis dit, tu accueilles des étrangers chez toi. Là, il y a une crise migratoire très forte. Ton engagement, ça va être d'accueillir quelqu'un chez toi, et pas un touriste, mais un réfugié cette fois-ci.
Alors, il se renseigne auprès d'associations qui très vite le mettent en contact avec un Syrien. Amjad Alayoub a 22 ans à l'époque. Originaire d'Idlib, il a fui la guerre et vient tout juste d'arriver à Paris. Il se souvient très bien de sa rencontre avec Florent.
C'était 17 octobre et je peux dire, cher Florent, j'étais aimé de la première fois. Il est un vrai frère pour moi. Il m'a prêté son appartement pendant 3 mois. J'ai pensé qu'il est fou.
Pendant 3 mois, Florent va vivre chez ses parents en banlieue pour laisser son appartement parisien à Amjad. Mais les deux hommes qui ont presque le même âge deviennent rapidement amis. Florent va aider Amjad dans toutes ses démarches et surtout à réaliser son rêve.
Il m'a dit j'ai envie d'étudier la médecine. Et j'ai envie d'étudier la médecine dès l'année prochaine. Et pour avoir l'université en septembre, il fallait être réfugié. On a écrit au directeur de l'OFPRA en disant « on a besoin du statut de réfugié rapidement ». Et finalement, en mai, il a eu le statut de réfugié, ce qui a permis d'envoyer son dossier en dernière minute. Et il a été pris dans la meilleure université de médecine de Paris, enfin en tout cas une des meilleures, Paris Descartes. Donc ça a plutôt bien marché, quoi.
Amjad vit aujourd'hui dans une résidence universitaire. Il continue ses études de médecine et veut rester à Paris.
Mon cœur, il m'aime, c'est la France. Mon père Ricard, c'est Paris et mon aourd, c'est la Tour Eiffel.
Aujourd'hui, plus de 6000 personnes dans le monde ont déjà proposé d'ouvrir leurs portes aux réfugiés, dont 600 dans l'Hexagone, faisant de la France le premier pays européen en termes d'inscrits.
Et on rappelle que le nom de la plateforme qui permet de faire cela est Open Homes Airbnb. Le ciel d'aujourd'hui est ensoleillé au sud, il y a des éclaircies dans l'est, ça va rester par contre mitigé au nord. Quant aux températures, elles restent bien basses. Cet après-midi, elles sont de 18 à 21 degrés. Sur la moitié nord, elles sont plus élevées dans le sud, elles montent jusqu'à 27 à 31 en Méditerranée. Journal préparé avec Moussa Adam, réalisé à la technique par Victoria Asper.